Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde.
Extrait donc de la bande-annonce du film Joker. C'est le moment de parler à Valérie Roberts, notre chroniqueur culturel. Bonjour Valérie.
Salut Bernard, as-tu des petits frissons comme moi en entendant la bande-annonce du Joker?
Honnêtement, là, je vais aller le voir en fin de semaine.
Ça a l'air incroyable. Mais
puis, c'est parce que c'est unanime. Tous ceux qui l'ont vu disent, écoutez, c'est un très, très bon, sinon très, très bon, très, 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 très bon film.
Ouais.
Et la plupart prédisent à l'acteur
l'Oscar.
L'Oscar du meilleur.
À Joaquin Phoenix.
Oui, voilà.
Ouais. Mais il doit y avoir une mise en garde quand même, je pense, avant d'aller voir ce film-là. Et c'est ce qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine parce que chaque fois que j'ouvrais les différents journaux, il y avait un article sur le Joker parce que c'est un film qui, paraît-il, est vraiment complètement bouleversant dans l'idée où c'est un film qui a aucune lumière, aucune joie, un film avec de la violence gratuite, un film parce que le Joker, dans le fond, il n'y a aucune ambition sociale, aucune ambition politique, rien pantoute. On dit que c'est un film qui est excessivement dur et ne cherchez pas à avoir un petit moment de lumière dans le film, il n'y en a pas. C'est sombre, c'est troublant, c'est déstabilisant et c'est ça qui a fait beaucoup jaser cette semaine. Je te rappelle l'histoire du Joker,
oui, voilà.
Bernard, puis surtout ce qui est intéressant dans l'histoire du Joker de ce film-là. Règle générale, le Joker, on l'a vu dans l'univers de Batman, c'est le méchant. Il y a plein d'acteurs qui l'ont fait et qui l'ont très, très, très bien fait. Mais cette fois-ci, dans le film donc de Todd Phillips, le réalisateur qui a fait ce film-là, on y retrouve Joaquin Phoenix qui interprète Arthur Fleck, qui est un gars qui vit avec une mère qui est complètement névrosée. Lui est incapable de garder un emploi, encore moins d'avoir des relations sociales et pour gagner un peu sa vie, parce qu'il veut être humoriste, mais on dit qu'il n'y a aucun talent malheureusement. Fait que pour gagner sa vie, il fait le clown dans des fêtes d'enfants. De là vient le maquillage du Joker, évidemment. Et lui, ce qui va arriver, c'est que sa vie va tellement mal qu'il se retrouve un peu, tu sais, on dit souvent à côté de la traque, là. Ben lui, dans tous les aspects de sa vie, il est à côté de la traque. Et on dit que cette interprétation-là, justement, où il y a une maladie mentale, clairement, qui pourrait être diagnostiquée chez cet homme-là, ben on va dire, on peut pas malheureusement t'aider. Sa travailleuse sociale va lui dire, tout ton suivi médical, tes prescriptions, tes médicaments, à cause des compressions budgétaires, on va devoir te mettre de côté. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'il va donc perdre la carte complètement et qu'il va devenir ce Joker avide de violence, très difficile à regarder.
Bon. Mais il en meurt pas moins qu'on est, on est mal fait, hein?
Comment ça?
Ben parce que ce que tu nous décris là, ça nous fait peur un peu, puis en même temps, c'est un petit peu ça qui nous tire vers le film. Parce que on entend dire, on lit partout que c'est très violent, qu'il y a de la violence gratuite, qu'on sort de là, on peut sortir de là passablement déprimé. Mais en même temps, on nous dit que l'interprétation de Joaquin Phoenix est absolument géniale.
Oui.
On nous dit que ça a été tourné un peu comme certains grands classiques des années 70 et 80, comme Taxi Driver de Martin Scorsese, une espèce d'hommage à ces grands films des années 70 et 80. Alors, quelqu'un qui aime le cinéma comme toi et moi et beaucoup de nos auditeurs, ben on a le goût de voir un film comme celui-là.
Mais
là.
C'est sûr
tu
et certain que les amateurs de cinéma, que les amateurs de grands films vont être attirés par ce film-là. Comme tu dis, les critiques sont unanimes. Il paraît que c'est grandiose. On prédit déjà le score à Joaquin Phoenix pour le Joker, tu l'as dit. Par contre, il y a tout un côté qui est vraiment troublant, moi, je trouve, par rapport à la sortie. Je ne sais pas à quel point c'est exagéré. Moi, c'est sûr que je vais y aller.
Est-ce que tu vas le voir en fin de semaine, toi?
C'est certain. Moi, je ne pourrais pas passer à côté de ce film-là. Ça a l'air trop gros. Par contre, ce que j'aime rappeler, c'est que t'sais, aux États-Unis, par exemple, il y a tellement eu de polémiques en raison de la violence qui est dépeinte dans le film que le FBI a surveillé la sortie des gens en salle. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'il y ait des gestes violents qui vont être inspirés du film, qui vont être posés. On craint que les gens qui sont influençables vivent un effet d'émulation. C'est-à-dire que toutes les blessures qu'ils ont intérieures, ben tout à coup, mon Dieu, le gars que je vois à l'écran, il a la même vie que moi. Ma vie est pas facile. Comment il s'en sort? Oh mon Dieu, il s'en sort par la violence. Et là, tout à coup, ces individus qui sont influençables-là, eh bien, ils ont une justification au mal-être ou à la violence qu'ils pourraient faire. Fait que c'est pour ça que
autant, c'est troublant. C'est troublant ce que tu me décris.
Je
là.
Le sais, mais tu vois, c'est pour ça que je pense que pour aller voir ce film-là, allez-y. Là, je dis pas du tout de pas y aller. Au contraire, je dis juste qu'il faut être dans l'état mental. Tu sais, si tu vas là-bas puis t'es déjà déprimé, je pense pas que c'est l'idéal. Si tu vas là-bas puis tu amènes quelqu'un avec toi qui a peut-être tendance à être un petit peu violent, je pense pas que c'est l'idéal non plus. Parce que la raison pour laquelle on met autant de mise en garde, c'est que c'est hyper réaliste. C'est pas une affaire de super-héros puis de super-pouvoirs puis de oh mon Dieu, Spider-Man, il se lance des buildings. C'est la vraie vie. C'est un humain qui va pas bien dans la vraie vie. Et c'est ça qui est troublant, paraît-il.
OK, passons du côté lumineux de la force.
Tu as entièrement raison, Bernard. On change de sujet, mais le Joker, ça l'affiche aujourd'hui, si ça vous tente d'aller voir ça.
Très bien. Alors, ça, c'est le côté obscur de la force. Oui. Le côté lumineux de la force, c'est Serge Fiori puis Harmonium.
Quel spectacle extraordinaire que Serge Fiori, seul ensemble, un projet donc du Cirque Éloise. Puis je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est déjà un spectacle qui a été à l'affiche donc l'été dernier, au printemps dernier à peu près, au Théâtre Saint-Denis, qui par la suite s'est déplacé à Québec et qui est de retour au Théâtre Saint-Denis. Pourquoi? Dû à la demande générale, parce que c'est un spectacle extraordinaire, basé sur la carrière de Serge Fiori. Donc, autant Harmonium que ses projets solo que Fiori Séguin. Donc, tout le disque qu'il avait fait avec Richard Séguin. Chansons qui ont été retravaillées par Louis-Jean Cormier et Alex McMahon. Une démarche qui a été grandiose selon Serge Fiori. Puis, je t'ai amené deux extraits, Bernard, pour qu'on entende ensemble la différence.
Ah, oui.
Donc, j'ai l'extrait de la pièce De la chambre au salon qui date de 1974, la version originale.
Et moi, je perds mon nom. Quand tu me dis non, je sais plus où je suis, qui je suis, et bien d'autres questions.
Le temps redevient long. De la chambre au salon.
Et là, mets-toi dans l'état d'esprit, t'es devant un cirque qui te présente de la poésie. Et ce qu'on entend, c'est la version 2019 de la chambre au salon.
Et moi, je perds mon nom. Quand tu me dis non, je sais plus où je suis, qui je suis, et bien d'autres questions. Le temps redevient long. De la chambre au salon.
Wow.
C'est grandiose.
C'est des belles orchestrations, ça, là. Tu sens la force, là.
Exactement. Puis ce qui est le fun dans ce spectacle-là, c'est qu'on n'a jamais dénaturé l'œuvre de Fiori. Au contraire, Louis-Jean Cormier et Alex McMahon ont travaillé fort pour présenter quelque chose qui ressemble à Serge Fiori, mais qui est juste poussé dans cette espèce d'imaginaire-là, d'harmonium, puis de gros délire un peu.
Et Fiori en est très fier. Il a dit, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait avec mon œuvre, dans
le
fond.
Moi, il m'avait dit en entrevue, Serge Fiori, que pour lui, c'était l'hommage des hommages. Et donc, on ne pouvait pas aller plus loin dans la salutation de son talent et de son œuvre. C'est ce qu'il voulait faire. Si vous allez le voir, parce que là, je vous en parle, c'est de retour au Théâtre Saint-Denis jusqu'au 20 octobre prochain. Sachez que si ce que vous aimez, c'est le vrai cirque, là, tu sais, où on retient notre souffle à cause des grands numéros, c'est pas ce que vous allez trouver dans le spectacle, l'ensemble.
C'est le cirque au service de la musique. Là,
exactement. Hein? C'est plus dans la poésie, énormément de danse. Par contre, dans la deuxième partie du spectacle, il y a un entracte de 20 minutes. Dans la deuxième partie, là, vous allez avoir du trapèze, une espèce de grande roue qu'on appelle la roussir. Il y a de la planche coréenne. C'est vraiment un spectacle grandiose. Moi, hier, c'était la deuxième fois que je le voyais. J'ai pleuré au même moment que j'avais pleuré la première fois. C'est vraiment très beau, surtout si vous aimez la musique, là, vous allez être emporté dans cet univers-là.
Est-ce qu'il reste, des billets et combien ils se vendent?
Ouais, j'ai regardé pour vous, il reste encore des billets pour le spectacle Serge Fiori, Seul Ensemble. Il faut savoir, il y a énormément d'artistes qui sont présents sur la scène. Ça justifie donc un prix qui est peut-être un petit peu plus dispendieux. Je pense, tu sais, j'ai pas vérifié 100% les prix, mais je me rappelle que quand j'avais vérifié lors de la sortie au printemps dernier, on parlait de 75, 80, 90 $ dans ces coins-là. Ça fait peut-être une sortie un peu plus dispendieuse. Par contre, si vous avez... Moi, j'étais avec ma mère hier, puis elle se rappelait de l'époque Harmonium, puis elle avait des frissons tout le long du spectacle parce que tu le revis pleinement. C'est vraiment un spectacle grandiose, Serge Fiori, Seul Ensemble.
OK. Juste pour terminer cette chronique culturelle, je sais pas, c'est-tu sérieux ou c'est je dois en rire un peu, je
Comment
sais pas trop.
Ça? Que...
Ben là, Justin Bieber, il se marie avec la même personne pour une deuxième fois.
Ben oui. Puis là, tout le monde a jasé de ça cette semaine. Tout le monde a niaisé Justin Bieber et sa femme, Hailey Bieber. L'affaire, c'est qu'eux, ils se sont mariés en septembre 2018 devant un tribunal de New York. Mais les deux voulaient vraiment faire une genre de cérémonie pour célébrer leur amour devant leurs amis et famille. Et donc, ça s'est passé le week-end dernier. Et la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'en plus, évidemment, d'avoir partagé une multitude de photos sur les réseaux sociaux, qui, ma foi, sont toutes splendides en passant, il a lancé aujourd'hui une nouvelle chanson pour célébrer cette union. La pièce s'appelle 10,000 Hours. On écoute un extrait. Do you miss the road that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. Je pense que ça va marcher, moi. Ben, je suis persuadée que oui. Et là, j'ai fait une petite traduction libre, donc d'un des extraits. Et ça dit comme suit. Oh, si c'est ce qu'il faut pour apprendre ton doux cœur, je ne pourrai jamais y arriver, mais je vais essayer. J'ai besoin de 10 000 heures ou le reste de ma vie et je vais t'aimer.
Hey,
à vous, là.
C'est de la poésie,
je
ça, mes
sais.
Amis.
Et moi, je dois dire, là, je l'avoue, moi, je me suis mariée deux fois à la même personne à l'intérieur d'un an. Donc, voilà, c'est ça.
Oh!
Je ne peux pas chialer sur le couple Bieber et Bieber, là, Hailey Bieber, Justin Bieber, parce que j'ai fait la même chose.
Tu t'es mariée deux fois avec la même personne dans la même année.
Ouais, je suis allée me marier à Las Vegas, juste avec mon amoureux. Et par la suite, au retour, nos mères nous ont dit, ça se passera pas ainsi. Nous aussi, on veut faire la fête. Et donc, on a organisé un gros mariage qui a coûté pas mal plus cher, soit dit en passant, que celui à Las Vegas.
OK, fait que le premier mariage, les parents n'étaient pas au courant, c'est ça?
Non, ils étaient au courant. On avait même choisi une chapelle avec un Elvis Presley, évidemment, classique de Las Vegas, qui avait une retransmission sur le web. Et donc, nos parents avaient le lien et ils ont pu regarder ça. Nos deux mamans ensemble avec une bouteille de champagne. Et ils ont bien aimé ça, mais je pense qu'ils ont préféré la vraie cérémonie. Donc, je comprends
c'est
les Bieber. Qu'est-ce que
c'est
je te dis?
OK, OK.
C'est l'amour.
Ben oui, je sais. Il faut que je me mette dans un état d'esprit romantique.
Et voilà. Mais toi, tu te remarierais pas, Bernard? Une deuxième fois, la même femme?
D'abord, tu as raison de dire que je me suis marié.
Voilà.
Puis moi, j'ai fait ça, de manière traditionnelle, devant le curé, tout le reste. Oui,
OK.
Oui. Puis je suis pas particulièrement, je pratique pas, là, tu sais. Mais moi, un mariage, qu'est-ce que tu veux, ça s'était toujours fait dans une église. Fait que moi, je voulais me marier dans une église avec de la belle musique, puis...
La cérémonie à l'église, suite, la fête, est-ce qu'il y avait... Parce que là, je veux dire, on s'entend, moi j'ai parlé de Elvis Presley, Justin Bieber a composé une chanson. Est-ce qu'il y avait un élément musical dans ton mariage?
Oui, bien, à la noce, nous autres, il y a Jean-Pierre Ferland qui est venu chanter la chanson préférée de ma douce, Martine, Une chance qu'on sort.
Ben là, rien de moins!
Je te jure! Oui, mais je l'ai déjà raconté, cette histoire-là. Je veux pas radoter.
Mais je l'avais jamais entendu. Je suis contente de l'entendre.
Mais Jean-Pierre Ferland est arrivé. Il faisait noir comme le poêle. On était dans une cabane à sucre, dans le fond du bois. Puis il est arrivé avec son pianiste. Il s'est installé. Puis il a chanté Une chance qu'on ça. Puis on a braillé. Puis on l'a remercié. Je l'ai déjà dit. Il m'a pas demandé une scène pour venir chanter au mariage. Mm. Il le fait pour Martine parce que c'était sa chanson préférée. Je l'ai appelé à Saint-Norbert, puis Jean-Pierre Ferland, il a dit « Je vais le faire pour ta blonde », puis il a tenu parole, puis au jour d'aujourd'hui, je lui suis encore profondément reconnaissant. Puis il faut que j'arrête parce que je suis un petit peu braillard. Puis là, je faut que je m'en aille à la pause.
Ben là, on va t'achever avec la chanson.
Ah ouais, là tu vas vraiment m'achever.
Tu penses mes pleurs, tu tues tous mes papillons.
Oh boy,
ok. Oh, c'est beau, hein.
C'est absolument magnifique. Ouais. On a une vidéo de ça puis tout ça. Merci Jean-Pierre. Je t'aime ma blonde. Et Valérie, tu restes avec nous parce qu'on va parler tatouage tout de suite après la pause.